C'est vrai, je vois, c'est pas vous, hein. C'est pas simplement des paroles convenues. Hein. C'est vrai que j'ai de bons souvenirs de ce que nous avons pu vivre ensemble dans le passé à Cavaillon. Et c'est pour moi vraiment une manière de me replonger un peu, bien qu'on ne veut pas cultiver la nostalgie, hein, parce qu'on ne veut pas uniquement rester sur le passé, continuer, progresser, avancer. Et c'est une joie de voir que nous sommes pas mal ce matin, pas beaucoup de sièges libres encore. C'est bien, c'est encourageant. Si vous voulez bien, juste je voudrais recommander au Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Et nous les attendons de toi. Merci parce que tu veux vraiment nous bénir tous ensemble ce matin. Moi le premier, et chacun ici, par ta parole. Nous désirons grandir en toi, Seigneur. C'est notre... Oui, c'est notre souhait, plus que cela, c'est vraiment notre direction que nous voulons prendre. Alors, que ta parole soit claire pour chacun de nous. Que ton esprit vraiment illumine nos cœurs, Seigneur. Merci. Amen.
Amen.
Voilà, alors, j'ai un titre pour mon message. Et c'est le suivant. Élie, serviteur dans la souffrance. Et vous verrez tout à l'heure dans la lecture de ce chapitre 17 du premier livre des Rois, il s'agit vraiment de cela. Mais avant toute chose, j'aimerais simplement vous donner une recommandation de Jacques, qui se trouve dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 10. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et nous avons là vraiment une recommandation solennelle de Jacques, qui nous invite donc à prendre comme modèle les prophètes de l'Ancien Testament, et parmi lesquels sont mentionnés Job et Élie, celui qui nous intéresse particulièrement ce matin. Alors, quelle est donc cette motivation de Jacques? Eh bien, simplement que nous comprenions que si nous désirons être serviteurs de Dieu, et ce à quoi nous sommes tous appelés, eh bien nous devons être prêts, parfois, et même prêts, vraiment, à renoncer à certains aspects de notre petit confort personnel. Et si la vie chrétienne était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Et le Saint-Esprit n'aurait pas pris la peine de nous faire connaître toutes les tribulations qu'ont endurées tous ces héros de la foi mentionnés dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Alors je propose de regarder ensemble un épisode de la vie du prophète Élie que nous allons lire maintenant dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Alors je de l'ouvrir. Alors, il faudrait qu'une personne lise à partir du verset 1er, bien sûr, jusqu'au verset 7, ensuite une autre du verset 8 au verset 17, et une autre du verset 18 au verset 24. Faisons-le maintenant. Enfin, je ne veux pas désigner quelqu'un, mais je pense que c'est volontaire pour le faire.
Élie, le 18. L'un des habitants de Galaad dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans ton cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par intermédiaire d'Élie.
Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je fait avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. »
Merci. Alors, voilà une histoire qui est passionnante et époustouflante même. Et c'est vrai que si nous regardons le contexte dans lequel le prophète Élie a exercé son ministère, nous voyons que cette période dans laquelle il vivait n'avait vraiment rien de réjouissant. Elle était bien pire que la nôtre aujourd'hui, ici, là où nous sommes en tout cas, dans ce coin de la planète. Il était dans le royaume du Nord, en Israël. Et à ce moment-là, c'était le roi Akab qui régnait. Et c'était vraiment le pire de tous les rois. C'était vraiment le pire de tous les rois. Il est dit de lui, donc au chapitre 16, toujours du premier livre des rois, au verset 30, « Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. » Et puis ça va même plus loin, au verset 31. Et comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il est pris pour femme Jézabel. Ça veut peut-être déjà pour nous une petite leçon. Il faut savoir avec qui on s'allie. Il y a des célibataires ici. Ça nous concerne. Ça nous concerne le choix de notre futur conjoint, femme de mes alliances. Quelqu'un avec qui on partage vraiment la vision de marcher pour le Seigneur. Et ça, c'était le bouquet. L'association Akab et Jézabel constituait la pire calamité pour le pays. Non seulement ils ont influencé les notables du royaume à se tourner à l'idolâtrie, mais en plus, nous constatons au chapitre 18 que Jézabel massacrer les prophètes de l'Éternel. Alors, la situation était vraiment terrible. Et Nous pouvons donc constater mauvais choix de son épouse, mauvaise conduite, persécution des fidèles de l'Éternel, atteinte à la parole de Dieu et à l'héritage d'Israël. Puis, c'est pas fini, et au sommet de la tyrannie, nous trouvons au chapitre 21 du livre des Rois, avec cet épisode que certains d'entre vous vous rappellerez, au sujet de la vigne de Naboth. Il a convoité cette vigne qui semblait être vraiment un petit bijou de jardin, et qu'il convoitait, qu'il appréciait, et sur l'instigation de sa femme Jézabel, il a fait mourir donc le propriétaire de cette vigne pour le spolier de son héritage. Alors, pour ce qui est d'un modèle de cruauté et de perfidie, nous avons vraiment là un personnage qui régnait dans le royaume du Nord, là où exerçait le prophète Élie. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur cet épisode, je vous recommande la lecture du chapitre 21 du livre des Rois. Idolâtre, voleur, assassin. Voici Akab, le roi d'Israël. Et voilà donc quelle était la conjoncture sociale d'Élie, fidèle serviteur de Dieu, dans ce milieu si défavorable. Et pourtant, le livre de Jacques nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Il est appelé par l'Éternel pour être son porte-parole, et sa première mission sera de prononcer un jugement sur le pays. Plus de pluie, plus de rosée, la sécheresse complète. Terrible épreuve pour la nation tout entière. Non seulement ils ont affaire à une autorité infidèle, tyrannique et cruelle, et voilà qu'en plus arrive vraiment le désastre météorologique. Plus de pluie entraîne forcément de maigres récoltes, donc la famine dans tout le pays. Et on regarde cette situation, au premier abord, on pourrait s'interroger. Est-ce que Dieu ne se tromperait-il pas de cible? Parce que, au fond, c'est quand même pas dans les palais des rois qu'on souffre le plus de la famine, qu'on redoute le plus la famine, mais c'est plutôt parmi les plus humbles du peuple, les plus pauvres. Alors c'est sûr que, avec une telle pensée, notre idéal de justice en prend un coup. Et puis, on sait très bien que Dieu est un Dieu de justice. Et nous savons que c'était vraiment dans la loi même de Moïse. Dieu voulait que la justice soit reconnue. Dans Deutéronome 25, vers le premier verset, lorsque les hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et on condamnera le coupable. Donc, il y a vraiment un idéal de justice dans la parole de Dieu. Et dans ce cas précis, Akab et Jézabel, première vue, ne nous semblent pas être les plus touchés par le jugement. Alors peut-être que certains diront après tout que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent et qu'il est juste qu'ils en subissent les conséquences. Mais quand même, c'est pas si simple. Et l'histoire des peuples, des nations, nous engage à rester prudents sur ce sujet. Et souvent, nous pouvons constater que ce n'est pas souvent le peuple qui choisit ses tyrans. Il n'existe pas de réponse facile face à la tragédie des nations, même si l'on trouve souvent certains spécialistes qui sont pleins de yaka et de faucons pour que les choses s'arrangent, mais c'est pas ça qui fait arranger les choses. Pour nous, chrétiens, nous devons faire preuve d'humilité face à la souffrance des hommes, et surtout ne pas vouloir nous comporter comme des juges, comme l'ont été en leur temps les amis de Job. Car la souffrance n'est pas toujours la conséquence directe d'une faute. Job, l'autre modèle mentionné par Jacques, est l'exemple type du croyant atteint par le scandale de la souffrance, harcelé par des événements hostiles, détresse physique, morale, familiale, sociale. Job était plein de pourquoi concernant son épreuve. Et il est resté longtemps sans réponse, ou les fausses réponses de ses amis, jusqu'à ce que Dieu le rencontre personnellement. Mais il a quand même fallu du temps. Mais il a tellement été béni, au point que tous ces pourquoi se sont envolés, disparus. Dieu n'a pas répondu directement à ces pourquoi, mais il s'est révélé à lui. Et nous pouvons constater, nous pouvons être sûrs qu'aucune théorie ou argumentation sur la souffrance ne peut égaler l'expérience d'une authentique et personnelle rencontre avec Dieu. Alors prenons garde à nos petites idées toutes faites sur la souffrance des gens et des peuples. Gardons à l'esprit le mauvais exemple des amis de Job. Et revenons à Élie. Alors voilà, il a bien accompli sa mission en prononçant le jugement divin. Pas de plus de pluie, plus de rosée. Et puis, nous le retrouverons verset 3, tranquille, dans un lieu que Dieu lui a indiqué, au torrent de Kirit. Et là, nous voyons du verset 4 au verset 6 qu'il est au petit soin de la grâce divine, avec l'eau fraîche du torrent et le ravitaillement des corbeaux. D'ailleurs, c'est resté dans le langage populaire. Hein. C'est pas tout à fait la vie du château, mais quand même, le voilà préservé et de la sécheresse et de la famine. Et peut-être se disait-il finalement, je suis bien, il n'y a plus qu'à attendre que le réveil arrive, hein, ou que le Messie vienne. Mais voilà, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Alors, c'est pas dit, mais qu'a-t-il pu penser à ce moment-là, notre Élie? Mais alors, mince alors, qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer l'inquiétude qu'il avait, hein, qu'il avait pu avoir lorsque le débit du torrent a commencé à baisser. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Pourquoi la situation se complique-t-elle? Tout allait si bien jusque-là. Alors, la question que je me pose à propos de l'Élie, même si ce n'est pas indiqué, bon, plutôt de se dire, mais au fond, justement, cet endroit aurait pu être pour lui sa petite zone de confort. Il était bien là. Il pouvait continuer longtemps comme ça. Il s'y était peut-être trop bien installé. L'eau fraîche du torrent, le miracle journalier des corbeaux ravitailleurs. Alors ça nous envoie, ça m'a renvoyé un peu à l'attitude de Pierre, Jacques et Jean lorsqu'ils se sont retrouvés avec le Seigneur sur le mont Tabor, mont de la Transfiguration. Ils ont vu justement Moïse, Élie, discuter avec le Seigneur, transfiguré. Moment formidable, un moment d'apothéose, j'imagine, pour eux. C'était extraordinaire, formidable. Ils avaient envie que ça se perpétue, que ça ne change pas, que ça reste comme ça. Et on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris. Ça se perpétue, hein. Un pour toi, un pour Moïse, un pour lui. Et l'Écriture dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Le quotidien d'un serviteur de Dieu, c'est d'avancer. Et il a fallu que Pierre, Jacques et Jean réalisent qu'il fallait redescendre dans la vallée. Et si Jésus nous engage à suivre le chemin étroit, c'est pas pour que nous nous y installions confortablement. Alors là, je voudrais vous renvoyer à un slogan que nous avions lorsque j'étais jeune à l'époque, avec Opération Mobilisation. Et si vous retenez quelque chose de ce message, retenez ça. Notre slogan, c'était « Mobilisons-nous si nous ne voulons pas nous fossiliser. » Retenez ça. Important. Opération Mobilisation. Le pays, sommes-nous concernés justement par cette situation? Nous nous sommes installés, nous sommes bien. Bon, voilà, les choses sont là, il y a un peu de statu quo, on est assez confortable finalement. Mais voilà, le pays meurt de faim et de soif spirituelle. spirituel. Mais nous, voilà, on est là. Tout à l'heure, j'ai dit les enfants, les jeunes quand on leur dit tout. Ça va, ils me disent tranquille. 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 Trop tranquille. Merci, tout va bien. On n'a besoin de rien. On n'a pas envie d'être dérangé. Et puis, quand on parle d'aller témoigner, on a encore un effort d'évangélisation. Un effort d'évangélisation, mais tout ça pour peu de résultats. Tout ça pour peu de résultats. Le Seigneur est dit. Dis bon, chantons des beaux cantiques, soyons ensemble. Bien, c'est bien. Mais quand même, c'est quand même. Au bout d'un certain temps, le torrent est passé. Il semble que lorsque les chrétiens s'enferment et se replient sur eux-mêmes, la sécheresse arrive aussi à gagner l'église. Et cette sécheresse se manifeste au travers de grandes pénuries. Pénurie de disciples qui témoignent, pénurie de prières, pénurie d'enseignement, pénurie de moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, pénurie d'amour fraternel. Par contre, abondance d'esprit de jugement, abondance de critiques, de dissensions, de chrétiens susceptibles. Alors comment ne pas penser aux reproches que le Seigneur a fait à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu t'es trop bien installé. Tu n'avances plus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Mais heureusement, Dieu a une parole pour Élie. Lève-toi. Il nous dit ce matin aussi. Lève-toi. Alors, reste ici. Lève-toi. Va, s'arrête-toi. Bouge. Mets en action ce que j'ai investi en toi. Ça fonctionne, là. Au moins, certains d'entre nous n'en ont plus, mais au moins, un. Bouge-toi. Mets en action ce que j'ai mis en toi. Alors ce matin, Dieu a une parole pour nous aussi. Alors interrogeons-nous. Suis-je de ceux qui ont stérilement enfoui le talent que Dieu nous a confié? Revenons-nous à l'œuvre. Alors Élie trouve à Sarepta une veuve. Une veuve qui est au bout du rouleau. J'ai l'impression que c'était la fin de mois. Ça doit être pire que ça encore. Pire que ça. Il lui reste plus rien. Une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et la démarche d'Élie auprès de cette femme, à première vue, pourrait nous paraître choquante. Hein? Mais Élie connaît la grâce illimitée de Dieu et la générosité illimitée de Dieu. Alors il peut dire, avec ce que tu as, prépare-moi un petit gâteau. Et toi et ton fils, vous aurez le reste. Nous avons derrière cette démarche un enseignement très spirituel qui nous fait penser à cette pauvre veuve que nous trouvons à Luc, chapitre 21. Vous savez, celle qui avait les deux petites pièces, alors que les autres mettaient beaucoup plus. Et elle a été remarquée par le Seigneur Jésus. Elle a été remarquée par le Seigneur Jésus et il la cite un exemple. Il semble que Dieu est vraiment sensible à l'élan de ceux qui savent lui donner jusqu'à l'heure nécessaire. Jusqu'à l'heure nécessaire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à propos de cette veuve. Oui, les autres, ils ont donné de leur superflu. Mais elle, elle a donné de son nécessaire. Dieu attend de notre part un engagement total. Plus que petite caisse. L'offrande totale de nous-mêmes, de notre propre vie. Pas comme le jeune homme riche qui voulait suivre le Christ, mais dès que le Seigneur lui a parlé de tout vendre et de le suivre, il s'est retourné le Christ. Alors sommes-nous trop riches de nous-mêmes pour oser nous offrir totalement au Christ. Vous connaissez tous l'histoire qui s'est produite quand les pharisiens ont voulu éprouver Jésus en lui disant « Est-il permis de, devant nous verser l'impôt à César ?» Et le Seigneur a demandé une pièce et il a dit « Qui est à l'effigie de qui est sur cette pièce ?» Et puis ils ont dit « C'est César. » On rendit à César ce qui est à César. Et il n'a pas fini la nuit. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Alors j'aimerais juste mettre en parallèle le récit de la création de la Genèse. À l'image de qui avons-nous été créés? Nous. Dieu a créé l'homme et pas son image. Alors si on rend ce qui est à César, nous à qui appartenons-nous? Nous appartenons à Dieu. Nous sommes à son image. Donc nous sommes, je crois, il nous est demandé de nous offrir à Dieu, parce que nous lui appartenons. Nous sommes à sa image. Alors, voilà. Dieu attend de notre part un engagement total, car c'est ainsi que nous pourrons voir agir la main de Dieu. La pauvre veuve a obéi à la demande d'Élie. Et ça a été formidable, ça a été extraordinaire. La farine n'a jamais manqué, l'huile n'a jamais manqué, jusqu'à ce que la pluie revienne. Oui. Et nous constatons dans cette histoire avec Élie que Dieu a manifesté généreusement sa richesse. La bénédiction les a tous atteints. Élie, la veuve et le fils. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Car dans la vie, nous rencontrons parfois aussi, même nous chrétiens, des drames. Et Élie va se trouver confronté à l'épreuve de la maladie et de la mort de l'enfant. Comment Dieu peut-il laisser une telle épreuve atteindre ses fidèles serviteurs? Alors il serait illusoire de croire que les tragédies ne peuvent pas toucher les enfants de Dieu. Oui, nous chrétiens, nous sommes aussi sujets au même titre que les incroyants des ravages qu'ont entraîné le péché et la chute de l'homme, Adam. Plusieurs d'entre vous seraient certainement mieux placés que moi pour aborder le sujet et me mentionner des exemples, des témoignages vécus dans ce domaine. La seule différence que les chrétiens ont avec les incroyants, c'est l'assurance de la présence du Seigneur à nos côtés durant l'épreuve, soit pour être délivré, soit pour être soutenu, mais surtout l'espérance de la délivrance totale et éternelle sur l'emprise du mal. Nous pouvons comprendre le drame qui touche cette pauvre veuve à ce moment-là, et le désespoir qu'elle manifeste à l'encontre d'Élie. Alors que faire dans une telle situation? Que fait Élie? Alors une parole d'autorité comme celle de Pierre dans le livre des Actes, qui a pu dire à ce mendiant, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Bon, ça n'a pas été la démarche d'Élie. Ça n'a pas été tout à fait la démarche d'Élie. Et nous avons là vraiment un modèle de prière d'intercession désespérée, mais persévérante. Trois fois, Élie s'étend sur le corps de l'enfant. Et ce n'est pas une prière triomphante qu'il adresse à Dieu, mais suppliante, suppliante. Et je m'y retrouve. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire des prières triomphantes, mais des prières suppliantes, oui, j'en ai fait. Et Dieu a répondu. Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? C'est vraiment une conversation avec son Dieu. Et il continue, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à lui. C'est pas une prière qui nous parle, mais une prière de foi, une prière sublime. Et nous avons aussi à vivre cela et à pratiquer cela. Alors nous assistons à un dénouement extraordinaire. Non pas à la puissance d'Élie, non, mais à celle du Dieu d'Élie qui rétablit l'enfant. Alors, pouvons-nous croire que notre Dieu, c'est le même, le Dieu d'Élie? En avons-nous conscience? Parce que c'est le cas. C'est le cas. Notre Dieu, c'est le même que le Dieu d'Élie. Dieu ne change pas. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Alors nous sommes exhortés par Jacques à suivre le modèle d'Élie. Alors, que dire d'autre? Sinon, prenons garde. Prenons garde à ce que nous ne soyons pas trop bien installés au Torah de Kérit. Si c'est le cas, attention à la sécheresse spirituelle qui malheureusement viendra inévitablement nous dessécher. Quel gâchis le jour où nous serons en face du Seigneur pour nous entendre dire « Qu'as-tu fait du talent que je t'ai confié ?» Alors, les amis, aujourd'hui encore, il est temps de répondre à l'appel de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Lève-toi et suis-moi. » Amen.